Cinquième partie. Le procès de trahison. Le matin du 5 décembre 1956, juste après l'aube, des coups violents à ma porte m'ont réveillé. Aucun voisin ni aucun ami n'avait jamais frappé de façon aussi péremptoire, et j'ai su immédiatement qu'il s'agissait de la police de sécurité. Je me suis habillé en vitesse et j'ai trouvé le commissaire Rousseau, un visage connu dans notre quartier, et deux policiers. Il m'a montré un mandat de perquisition et ils ont commencé immédiatement à passer la maison au peigne fin, à la recherche de documents ou de papiers compromettants. Mais les enfants se sont réveillés et d'un regard sévère, je leur ai indiqué de rester calmes. Ils me regardaient pour que je les rassure. Les policiers fouillaient les tiroirs, les placards, les meubles, partout où l'on aurait pu cacher des documents interdits. Au bout de 40 minutes, Rousseau m'a dit d'un ton très naturel « Mandela, nous avons un mandat d'arrêt, suivez-moi. » J'ai regardé son mandat et les mots m'ont sauté au visage. Hoogverraad, haute trahison. Ils m'ont emmené à Marshall Square, la prison en briques rouges et aux nombreux recoins de Johannesburg dans laquelle j'avais passé quelques nuits en 1952 pendant la campagne de défi. Un certain nombre de mes amis étaient déjà là, car on les avait arrêtés et internés avant moi, plus tôt, le matin. Au cours des heures suivantes, on a continué à amener d'autres camarades. Le gouvernement préparait depuis longtemps cette rafle et arrêta tous les chefs de l'ANC, bannis ou non. Le gouvernement accusait l'ensemble des 156 arrêtés de haute trahison et de conspiration à l'échelon national dans le but de renverser le gouvernement par la violence et de le remplacer par un État communiste. La période couverte par l'accusation allait du 1er octobre 1952 au 13 décembre 1956. Cela comprenait la campagne de défi, le déplacement de Sophiatown et le congrès du peuple. La loi sud-africaine sur la haute trahison n'était pas fondée sur le droit anglais, mais sur des antécédents hollandais, et définissait la haute trahison comme une intention hostile de troubler, d'affaiblir ou de mettre en danger l'indépendance ou la sécurité de l'État. Le châtiment était la peine de mort. Deux semaines plus tard, nous avons comparu pour l'interrogatoire préliminaire. Il avait pour objectif de déterminer si le magistrat jugeait les preuves suffisantes ou non pour un procès. Avant le procès, mon mariage avait commencé à aller mal. Evelyn avait donné naissance à Makaziwe, qui portait le nom de la petite fille que nous avions perdue 6 ans plus tôt. Dans notre culture, donner à un nouveau-né le nom d'un enfant décédé est considéré comme une façon d'honorer sa mémoire et de conserver un attachement mystique à l'enfant parti trop tôt. Au cours de l'année suivante, Evelyn s'est engagée dans l'organisation de la Tour de Garde, qui faisait partie des Témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si cela résultait d'une insatisfaction dans sa vie à ce moment-là. Les Témoins de Jéhovah considéraient la Bible comme la seule loi et croyaient à un grand conflit futur entre le bien et le mal. Evelyn a commencé à distribuer avec zèle leur publication, La Tour de Garde, et a essayé de me convaincre de transformer mon engagement dans la lutte en un engagement pour Dieu. Mon engagement dans l'ANC et dans la lutte était irrémédiable, et cela troublait Evelyn. Elle avait toujours pensé que la politique était un amusement de jeunesse et que je rentrerais un jour au Transkei pour exercer mon métier d'avocat. En 1955, elle m'a donné un ultimatum. Je devais choisir entre elle et l'ANC. La rupture de tout mariage est un traumatisme, surtout pour les enfants. Notre famille n'y a pas fait exception et les enfants en ont souffert. Mac Gatto dormait dans mon lit. C'était un enfant très gentil, un médiateur naturel, et il essayait de trouver le moyen de nous réconcilier, sa mère et moi. Makaziwe était encore petite. Elle ne savait pas si elle devait courir vers moi ou se sauver. Un conflit lui déchirait le cœur et elle ne savait pas comment le résoudre. C'était très douloureux. Tembi, qui avait 10 ans à l'époque, fut le plus affecté. Il cessa de travailler en classe et se renferma. Avant, il aimait beaucoup l'anglais et Shakespeare. Mais après la séparation, le travail scolaire n'a plus semblé l'intéresser. Tembi portait alors souvent mes vêtements, même s'ils étaient beaucoup trop grands pour lui. Il avait l'impression d'être avec son père, trop souvent absent. Le 9 janvier 1957, après des mois d'audience des preuves de l'accusation, on nous a de nouveau rassemblés dans le Drill Hall. C'était au tour de la défense de réfuter les arguments de l'accusation. Après avoir résumé les charges qui pesaient contre nous, Vernon Béranger, notre principal avocat, a pris la parole. La défense va repousser énergiquement l'affirmation selon laquelle les termes de la Charte de la liberté sont de nature criminelle ou constituent une forme de haute trahison. Tout au contraire, la défense soutiendra que les idées et les convictions exprimées dans cette charte, même si elles sont incompatibles avec la politique de l'actuel gouvernement, sont partagées par l'immense majorité de l'humanité, de toute race et de toute couleur, ainsi que par l'immense majorité des citoyens de ce pays. En accord avec nos avocats, nous avions décidé que nous ne nous contenterions pas de prouver notre innocence et montrerions qu'il s'agissait d'un procès politique dans lequel le gouvernement nous persécutait pour avoir décidé d'actions moralement justifiées. Mais l'affrontement des arguments a bientôt cédé la place aux tactiques de procédure. Le premier mois a été consacré à la présentation des preuves de l'accusation. On a produit un par un et numéroté chaque journal, tract, livre, carnet, lettre, magazine et coupure de presse. 12 000 documents en tout. Cela allait de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies jusqu'à un livre de cuisine russe. Pour soutenir l'allégation invraisemblable selon laquelle nous avions prévu de remplacer le gouvernement par un État de type soviétique, l'accusation s'appuya sur les preuves avancées par le professeur Andrew Murray, directeur du département de sciences politiques à l'Université du Cap. Murray désigna comme communiste quantité de documents saisis, y compris la Charte de la liberté. Au début, le professeur Murray semblait relativement bien informé, mais c'était avant que Béranger ne l'interroge. Ce dernier lui a dit qu'il allait lui lire des extraits de différents documents et Murray devrait dire s'ils étaient communistes ou non. On atteignit le sommet quand Béranger lut à Murray un passage que le professeur n'hésita pas à qualifier d'entièrement communiste. Béranger lui dit alors qu'il s'agissait d'un texte que le professeur Murray lui-même avait écrit dans les années 30. L'examen préparatoire avait duré toute l'année 1957. Le procès fut ajourné en septembre et la défense se mit à examiner les preuves. 3 mois plus tard, sans avertissement ni explication, la cour annonça l'abandon des accusations contre 61 accusés. Il s'agissait pour la plupart de personnages relativement secondaires de l'ANC, mais parmi eux, il y avait aussi le chef Luthuli et Oliver Tambo. Cette décision nous plut, mais nous stupéfia. En janvier, date à laquelle le ministère public devait résumer ses accusations, il présenta un nouveau procureur, le redoutable Oswald Pirot, ancien ministre de la Justice et de la Défense et aussi ardent partisan de la politique du Parti national. Afrikaner nationaliste depuis toujours, il avait soutenu la cause des nazis. Il avait décrit Hitler comme le plus grand homme de son temps. C'était un anticommuniste virulent. La nomination de Pirot prouvait une nouvelle fois l'inquiétude du gouvernement et l'importance considérable qu'il attachait à la victoire. Après 13 mois d'examen préparatoire, le président décida qu'il avait trouvé une raison suffisante pour nous traduire devant la Cour suprême du Transvaal pour haute trahison. Le procès fut ajourné en janvier. 95 personnes restaient accusées. Mais nous ne savions pas quand commencerait le véritable procès. Un après-midi, pendant une suspension de séance au cours de l'examen préparatoire, j'ai conduit un de mes amis en voiture d'Orlando à Johannesburg. À un arrêt de bus, j'ai aperçu du coin de l'œil une très jolie jeune femme qui attendait. J'ai été frappé par sa beauté et j'ai tourné la tête pour mieux la voir, mais la voiture allait trop vite. J'ai gardé l'image de cette femme. J'ai même pensé faire demi-tour pour l'emmener dans l'autre direction. Mais j'ai continué. Quelques semaines plus tard, je suis entré dans le bureau d'Oliver. La jeune femme se trouvait là, avec son frère, assise devant Oliver. Je suis resté interdit, et j'ai fait de mon mieux pour ne pas montrer ma surprise ou mon plaisir devant cette coïncidence étonnante. Oliver m'a présenté et m'a expliqué qu'ils étaient venus le voir pour des problèmes juridiques. Son nom était Nomzamo Winifred Madikizela, mais on l'appelait Winnie. Elle venait de terminer ses études d'assistante sociale à l'école Jan Hofmeyer à Johannesburg et travaillait au Baragwanath Hospital où elle était la première assistante sociale noire. À l'époque, je n'ai pas fait très attention à ses études ni à ses problèmes juridiques car quelque chose au fond de moi était bouleversé par sa présence. Je ne sais pas si quelque chose comme l'amour peut naître au premier regard, mais je sais parfaitement qu'au moment même où j'ai vu Winnie Nomzamo, j'ai voulu l'avoir pour femme. Winnie était la sixième des 11 enfants de Seka Madikizela, un directeur d'école devenu homme d'affaires. Son prénom, Nomzamo, signifie « celle qui lutte » ou « celle qui connaît les épreuves ». Un nom aussi prophétique que le mien. Pendant les semaines et les mois suivants, nous nous sommes retrouvés à chaque fois que nous avons pu. Elle venait me voir au bureau. Elle a rencontré Tembi, Maggato et Makaziwe. Elle assistait à des réunions et des discussions politiques. Je lui faisais la cour et je la politisais en même temps. Peu de temps après avoir demandé le divorce d'avec Evelyn, j'ai dit à Winnie qu'elle devrait aller essayer une robe de mariée. J'ai demandé à Winnie combien elle voulait de demoiselle d'honneur et je lui ai proposé d'aller informer ses parents que nous allions nous marier. Winnie a toujours dit en riant que je ne l'avais jamais demandé en mariage, mais je lui ai toujours assuré que je l'avais demandé lors de notre tout premier rendez-vous et qu'à partir de ce jour-là, j'ai considéré la chose comme entendue. Lors de la cérémonie, le père de Winnie dit qu'il n'était pas optimiste sur l'avenir et qu'une telle union, dans des temps aussi difficiles, connaîtrait continuellement des épreuves. Il dit à Winnie qu'elle épousait un homme qui avait déjà épousé la lutte. Il souhaita bonne chance à sa fille et il conclut en disant « Si ton mari est un magicien, il faudra que tu deviennes une sorcière ». Le procès en trahison en était dans sa seconde année et il pesait de façon écrasante sur l'exercice de mon métier d'avocat. Le cabinet Mandela et Tambo allait à volo car nous ne pouvions pas être là et nous avions de sérieux problèmes financiers. Je n'ai même pas pu payer les 50 livres que je devais toujours sur le terrain d'Umtata et j'ai dû y renoncer. J'ai expliqué tout cela à Winnie. Je lui ai dit que nous devrions vraisemblablement vivre sur son petit salaire d'assistante sociale. Elle a compris et m'a répondu qu'elle acceptait de partager mon sort. Je ne lui ai jamais promis d'or ou de diamants et je n'ai jamais pu lui en offrir. L'épouse d'un combattant de la liberté est un peu comme une veuve, même quand son mari n'est pas emprisonné. Malgré le procès de trahison, Winnie me donnait beaucoup d'espoir. J'avais l'impression d'avoir une nouvelle chance dans la vie. Mon amour pour elle me donnait une force supplémentaire pour les combats qui m'attendaient.